Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, bienvenue dans votre petit matin. On espère que vous allez bien pour ce mardi de reprise. Si vous avez eu la chance de profiter d'un week-end de 3 jours, on en profite également pour souhaiter une très bonne fête à toutes les Emma aujourd'hui.
Emma télé est allumée, Emma t'es là, et dire que ma journée est à peine entamée.
Voilà, du bon son rock breton pour embrasser toutes les Emma et pour se faire plaisir, tout simplement, pour bien commencer la journée avec vous. On est ensemble sur Europe 1 jusqu'à 6h30. Dans l'actualité, ce 19 avril, Julien.
Une nouvelle phase dans la guerre en Ukraine. L'offensive russe a commencé dans l'est du pays. C'est ce qu'affirme le président ukrainien Volodymyr Zelensky. On va l'entendre dans un instant.
À la une également, une candidate qui se met en retrait.
Pour mieux préparer le débat demain soir face à Emmanuel Macron et surtout mieux y figurer qu'il y a 5 ans, pas de déplacement aujourd'hui ni demain pour Marine Le Pen qui veut pouvoir se concentrer, garder des forces pour ce face-à-face crucial.
Crucial car la candidate du RN est pour l'heure donnée perdante dans toutes les enquête d'opinion.
Alors comment compte-t-elle inverser la tendance? Marine Le Pen fera-t-elle l'inverse du débat de 2017 où elle était apparue agressive? Question que l'on va poser à 6h10 à l'un de ses plus proches conseillers.
Le porte-parole du Rassemblement National et maire de Beaucaire, Julien Sanchez.
C'est un mal que vous connaissez peut-être trop bien, celui qui provoque une barre dans le crâne, au-dessus des yeux, dans la nuque, qui vous compresse, qui vous oblige à rester dans le noir.
Hein. Oui, ce terrible mal de tête qui touche plus de la moitié de la population mondiale au moins une fois par an. Une nouvelle étude a été publiée par des chercheurs d'une université norvégienne. Elle compile 60 ans de données et elle indique notamment que chaque jour, une personne sur 6 sur Terre souffre de maux de tête.
Alors quelles en sont les causes, les bons réflexes à adopter quand le mal survient et où en est la médecine pour les migraineux chroniques?
Oui, nous serons avec Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille et directeur de la fondation Alzheimer. Rendez-vous à 6h moins le quart.
Et pour terminer, votre partition, Blin.
Une voix qui devrait être prescrite par tous les médecins. Dans quelques jours, on célébrera le 100e anniversaire de la naissance de Serge Reggiani.
La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps.
Serge Reggiani, guidé par Georges Moustaki, lui a offert certaines de ses plus belles chansons. Rendez-vous à 6h20.
Bonjour Anissa Dadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
La météo du jour, elle commence à changer.
Oui, après ce magnifique week-end de Pascal, c'est vrai qu'on avait envie que ça dure, hein, ce soleil qui s'installe, ces températures qui sont dignes d'un début juin. Eh bien, le temps va changer et ça se passe encore une fois, comme d'habitude, par l'ouest. C'est là qu'arrive la dégradation, avec dès ce matin, de la Charente jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, des averses, hein, le retour de la neige également en montagne sur les Pyrénées. On a des flocons dès 1300 mètres, ce qui n'est pas très haut. Dans l'après-midi, c'est dans le sud-ouest que les pluies seront les plus fréquentes et les plus importantes. Le ciel va rester couvert toute la journée jusqu'en Vendée, en passant par la Gironde ou encore les Landes. Et puis, partout ailleurs, on aura quand même un temps calme. C'est le soleil qui l'emporte malgré tout aujourd'hui. Et c'est dans le Grand Est et en Provence que nous aurons la plus belle journée. Alors les températures, il va falloir ressortir les petites vestes parce qu'elles baissent légèrement. On a des valeurs négatives avec moins 1 à Charleville-Mézières, 7 à Paris, 15 à Perpignan. Et cet après-midi, on aura 12 à 19 sur la moitié nord et jusqu'à 22 dans le sud.
Merci beaucoup Anissa Dadi et à tout à l'heure. Je vous souhaite à tous un excellent réveil à l'écoute d'Europe. Il est 5h. Et à la une de ce mardi, l'enfer sur le Donbass où une pluie de bombes russes s'abat depuis quelques heures. La bataille redoutée depuis des semaines a commencé. La guerre en Ukraine entre dans une nouvelle phase. La présidentielle, J-1 avant le débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les deux finalistes se préparent. Dernier bain de foule hier dans le Calvados pour la candidate du Rassemblement National. Reportage à suivre. Et puis la colère gronde en Chine. Les habitants ne supportent plus le confinement strict imposé par le régime. Certains se rebellent. D'une résidente franco-écossaise dans ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Journal qui vous est présenté comme chaque matin par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. La guerre en Ukraine connaît un nouveau tournant majeur. Les bombes pleuvent, la bataille du Donbass a commencé, annonce dans la soirée du président Volodymyr Zelensky.
On peut constater que les militaires russes ont commencé la bataille pour le Donbass à laquelle ils se préparaient depuis longtemps. Une partie très importante de l'armée russe est déjà concentrée là-bas pour cette offensive. Autant que possible, nous lutterons, nous combattrons, quel que soit leur nombre. Nous ne donnerons rien de ce qui nous appartient. Et nous n'avons pas besoin de ce qui ne nous appartient pas.
Voilà, on vient d'entendre Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Plus tôt dans la journée, c'est à l'ouest de l'Ukraine que les attaques se sont intensifiées, notamment à Lviv, où au moins 7 personnes sont mortes, 11 autres blessées dans des frappes de l'armée russe. Moscou annonce aussi la destruction d'un important dépôt d'armes étrangères récemment livré à l'Ukraine.
Comme une provocation à présent, Vladimir Poutine, de son côté, a honoré une brigade accusée d'avoir participé au massacre de Boutcha.
En la décorant d'un titre honorifique au nom de l'héroïsme, de la ténacité, la détermination et le courage de ces hommes.
5 heures passées de 2 minutes, on revient en France sous le soleil normand pour le dernier déplacement de Marine Le Pen. C'était hier avant le débat de l'entre-deux-tours prévu demain soir.
Et c'est en terrain conquis que la candidate du Rassemblement National a fait un détour en fin de matinée hier à Saint-Pierre-sur-Dive dans le Calvados où elle a obtenu près de 35% des voix au premier tour. Alexandre Chauveau, bain de foule pour Marine Le Pen qui veut se montrer plus que jamais proche du peuple.
Oui, prise de risque minimale pour Marine Le Pen hier, dans une ville rurale de 3000 habitants où elle a pu à nouveau tester sa popularité. Pas question de changer la stratégie qui l'a menée au second tour, faite de terrain et de proximité. Alors depuis sa qualification, Marine Le Pen enchaîne les territoires acquis à sa cause. Jeudi dernier dans le Vaucluse, samedi à Saint-Rémy-sur-Avre dans l'Eure-et-Loir et hier dans le Calvados donc. Autant d'occasions de cultiver son image de candidate qui protège les plus vulnérables, comme lors de cet échange hier avec le maire de Saint-Pierre-sur-Dive.
J'espère que, quel que soit le président, que ça soit une chose...
Une simplification
des choses et qu'on soit
Mais vous savez, de manière générale, si vous voulez, on est quand même dans une politique aujourd'hui où tout est tellement complexifié que seuls les gros peuvent s'en sortir, les grosses communes, mais aussi les grosses entreprises pour toute une série de normes. Et en fait, les petits, les TPE-PME, quand ce sont les sociétés ou les petites communes, ont du mal à faire face à cette inflation de normes.
Une stratégie qui a un temps payé mais qui ne semble plus si efficace que cela dans l'entre-deux-tours, à en croire les sondages. L'écart se creuse petit à petit en faveur d'Emmanuel Macron, une dynamique que Marine Le Pen espère enrayer mercredi lors du débat face au président sortant.
Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Le fameux débat de l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ce sera donc demain soir, 21h. Arthur Delaborde, comment se préparent les deux candidats pour ce rendez-vous si cher aux Français ?
Eh bien, pour travailler sur ce débat, Emmanuel Macron a passé une partie de sa journée d'hier à l'Élysée. Il a potassé les notes rédigées par une équipe spécialement constituée pour décortiquer le programme de Marine Le Pen. Selon nos informations, dans ce cercle rapproché figurent notamment le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, celui des Outre-mer, Sébastien Lecornu, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et le conseiller en communication, Clément Léonarduzzi. D'autres piliers de la majorité, comme le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ont été consultés. Marine Le Pen, de son côté, a vidé son agenda pour se concentrer sur le débat. Mais alors que des membres de son équipe avaient indiqué qu'elle allait se mettre au vert dans une maison de campagne en Normandie, la candidate du Rassemblement National précise qu'elle va finalement rester chez elle. Elle assure en tout cas avoir tiré les leçons de 2017 où elle était arrivée mal préparée et fatiguée après avoir multiplié les déplacements.
Arthur Delaborde, le débat de l'entre-deux-tours sera évidemment à suivre sur Europe. Pas en direct, émission spéciale à partir de 20h avec Alexandre Lemaire.
On prend maintenant la direction de Shanghai où les habitants vivent un enfer depuis fin mars.
Cloîtrés chez eux à cause du Covid. Alors certes, les règles ont été un peu assouplies, mais les sorties sont limitées au strict minimum, les tests très réguliers, si bien que les habitants commencent à se rebeller contre toutes ces restrictions. Catherine est franco-écossaise, professeure à Shanghai depuis un an, elle nous raconte son quotidien.
Les premiers jours, il n'y avait pas de livraison, on ne pouvait pas se faire livrer. Mais depuis peut-être une semaine maintenant, ça va beaucoup mieux. On arrive à se faire livrer assez facilement. On a l'essentiel. Il nous arrive d'être testé 2 fois dans la journée. Obligation de faire le self-test le matin avec le test PCR l'après-midi. On a du mal à savoir à quoi ça rime, où se teste sur test sur test. Et puis, on ne voit pas trop, en effet, quand on va pouvoir sortir.
Le témoignage recueilli par Nina Droff pour Europe 1 concernant l'épidémie de Covid. Un sommet mondial pour mettre fin à la pandémie et se préparer aux futures épidémies aura lieu le 12 mai à l'initiative de la Maison Blanche.
Sur le front de l'emploi en France, l'été s'annonce très compliqué pour les restaurants et les hôtels.
Il manque entre 200 000 et 300 000 paires de bras pour la saison selon les deux principaux syndicats du secteur, l'UMI et le GNI. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie craint une pénurie historique de personnel, notamment en raison des réorientations professionnelles des salariés pendant le Covid.
Nous sommes mardi, premier jour de la semaine pour beaucoup d'entre nous, et après ce beau temps chaud et ensoleillé, week-end de Pâques.
Le réveil vient d'ailleurs peut-être de sonner pour vous. Hein. Les Français sont nombreux à avoir choisi de partir quelques jours pour en profiter. En témoignent les bouchons d'hier après-midi pour revenir dans la capitale. Océane Théard a fait escale sur une aire d'autoroute, micro à la main, pour rencontrer ses touristes d'un week-end.
Il flotte comme un air de fin de vacances. Les glacières et les serviettes de plage bien rangées dans les coffres des voitures et les mines souriantes aux jours rougis par des après-midi passés au soleil. Des automobilistes qui sont déjà nostalgiques d'un week-end bien rempli.
Nous, on était à Amboise, on est parti voir des châteaux et boire du vin, entre copains.
On était en Touraine, petite réunion de famille, tranquille au soleil. On a ramassé des œufs, les cloches sont passées, tranquille, un week-end à la campagne.
Nous sommes allés au Sable d'Olonne. Super week-end, il faisait très très beau. Ce serait cru au mois de juillet.
On a marché, on a mangé des chichis, des gaufres. Voilà, on a bien profité quoi.
Profiter du grand air, des embruns, avant de devoir ranger à contre-cœur les tongs et les bermudas et retrouver le chemin de l'école et du bureau.
Ça va être très dur. Très très dur. Voilà, je travaille en plus dans un bureau enfermé, donc voilà, c'est pour ça que ce week-end je me suis bien lâchée.
Ça va piquer demain. Voilà, ouais, bon, on sait pas à quelle heure on va rentrer surtout.
Car après avoir avalé son café noir, terminé son sandwich, il faut encore parcourir la vingtaine de kilomètres de bouchons jusqu'à Paris en rêvant déjà au prochain week-end prolongé.
Océane Théard, allez courage aux travailleurs, le week-end de l'Ascension, c'est le 26 mai pour ceux qui veulent faire le pont.
C'est noté, merci beaucoup. Alban Le Prince pour ce journal, à tout à l'heure.
Il est 5h08 et on passe aux courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Auteuil et mon pari gagnant sera le 808, Sindelria. Aussi à l'aise en et qu'en steeple, comme le prouvent ses deux dernières victoires obtenues dans les deux spécialités, le 5 mars sur le Steeplechase d'Angers, puis le 28 mars sur les haies nantaises, il revient cet après-midi à Auteuil avec de légitimes ambitions. Cinquième il y a deux ans d'un groupe 3 sur cet hippodrome d'Auteuil. Avant de connaître ensuite des problèmes de santé, il devrait pouvoir, face à une opposition largement à sa portée, enchaîner dès cet après-midi une troisième victoire consécutive. Alors notez bien, pour Auteuil, réunion 1, dans la huitième course, le numéro 8, Sindelria.
Le numéro 8, c'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger. Et on vous retrouve dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. À tout de suite.
Le débat de l'entre-deux-tours.
L'événement politique est sur Europe 1.
Est sur Europe 1.
Il est 20h.
Emmanuel Macron.
Marine Le Pen.
Les finalistes de l'élection présidentielle n'ont plus que quelques jours pour vous convaincre.
Marine Le Pen.
Emmanuel Macron.
Demain, Europe 1 vous propose une grande soirée politique.
À 20h, les enjeux.
À 21h,
le débat en intégralité.
Et jusqu'à minuit,
débrief et analyse.
Emmanuel Macron.
Marine Le Pen.
Marine Le Pen.
Emmanuel Macron.
Votre soirée spéciale débat.
Présentée par Alexandre Lemaire.
C'est demain, dès 20h, sur Europe 1.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Et avec nous, Martin Lange pour raconter les trois histoires du pressing. Bonjour.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Martin. On commence comme chaque matin avec vos journaux qui sont nombreux à consacrer leur une à Marine Le Pen. Pouvoir d'achat, épargne, les cinq failles de son projet, titre Le Parisien aujourd'hui en France, qui pointe notamment le financement aléatoire des réformes qu'elle propose. Police, religion, éducation, Le Pen, des racines et des haines. Voilà ce que l'on peut lire en une de Libération. Pour qui les fondamentaux de l'extrême droite sont bel et bien présents dans le projet de société porté par la candidate du RN. Marine Le Pen qui fait aussi la une de l'opinion, décidément, ces 100 jours qui ébranleraient la France, titre le journal libéral, inquiet des conséquences économiques du programme de l'adversaire d'Emmanuel Macron. Omblin. Quel article avez-vous sélectionné ce matin ?
Alors, c'est pas nouveau et on le dit souvent, la mode, comme la musique, hein, c'est fait de cycles. On peut compter sur les nouvelles générations pour s'emparer d'anciens codes vestimentaires afin de les remettre au goût du jour. On assiste régulièrement au retour des pas de def. En général, ça, le cycle, il est assez court, ça revient assez souvent. On peut lire dans le Figaro...
C'est 15 ans, c'est ça, à peu près ?
Oui, bah, ça dépend des... Ça dépend des...
Il y a des trucs qu'on aimerait bien que ça soit un siècle.
Qui reviennent vite. La jupe Corolle, par exemple, pour l'instant, on la va pas vraiment revenir. Bon, sera l'objet d'une autre chronique. En tout cas, dans le Figaro, c'est la cravate, cher Julien, qui redevient tendance. Mieux, elle est aujourd'hui un accessoire de mode qui enthousiasme les jeunes entre 18 et 25 ans, et aussi les adolescents et les adolescentes. La preuve la plus éclatante, c'est le nombre de tutos qui existent sur le réseau social TikTok, des tutos pour apprendre à nouer une cravate, parce que c'est pas
quel
inné.
Casse-tête. Hein, oui.
Des centaines de milliers de likes accompagnent également ces tutos. Eh ben alors vous avez le choix sur TikTok. On va.
J'ai pas TikTok.
Je peux plus rien faire pour vous.
J'irai sur YouTube comme un vieux.
Voilà, exactement. Ah non, mais les vieux, ils en portent plus, les cravates. Écoutez.
Ben voilà.
Elles fleurissent sur les sites de vente de vêtements vintage, ces cravates, de vêtements de seconde main. Et dans les friperies aussi, il y en a pour tous les goûts, tous les motifs. Il y a de toutes les matières de cravates. Et le succès s'explique en partie par le fait que tous ces jeunes gens ne sont pas obligés de la porter, à la différence peut-être des trentenaires, des quarantenaires qui, grâce au télétravail, ont réussi à s'en débarrasser. Si le confinement a fait du mal au bout de tissu pointu et strict du représentant de commerce, eh bien elle fait désormais partie de la panoplie des jeunes adultes qui prennent plaisir à s'habiller à nouveau et surtout on la porte n'importe comment. La cravate libre se noue négligemment sur un col ouvert, elle se porte sur un polo, sur un t-shirt. Oui, ah madame. Oui. Oui, madame. C'est une chemise ample avec un jean.
Elle autour sert... de la taille, non ?
Exactement, elle sert de ceinture maintenant au jean.
J'ai vu passer ça un jour. Oui.
Chez les femmes, on se la joue esprit années 20, Marlène Dietrich. Les créateurs de mode l'ont bien compris et se sont saisis du sujet. La cravate défile dans tous ses états. Chez Hermès, qui a lancé sa première cravate en 1949, on s'en réjouit. Surtout que, parce qu'en partant de ce bout de soie, les hommes s'expriment. Voilà, ce n'est plus une obligation, je le répète, mais c'est un plaisir.
Je suis sapé comme un notaire, cravate blazer et nous dansons. Et lorsqu'il commence à m'en cuire, cravate de cuir et je me morfonds. Cravate à pois, cravate de soie.
Cravate à pois, cravate de soie, hein, vous avez le choix. Ils sont jeunes et ils sauvent la cravate, c'est dans le Figaro. On n'est pas à l'abri de revoir apparaître le baggy. Hein. Moi je dis ça, je dis rien.
On l'a déjà vu réapparaître. Comment on appelle ça, ces grosses chaussures compensées là, que les filles portaient quand on était adolescents, nous là.
Oui.
Les buffalo, c'est
ça. Il y a un siècle, c'est ça.
Voilà, ouais.
Les buffalo.
Ouais, on est vraiment à l'abri de rien.
Non,
ouais.
Non.
Merci
hélas.
Beaucoup, Ombline. Oui. Martin, c'est à vous.
Vous avez une bibliothèque chez vous, Ombline, Julien.
Bien sûr, ça fait bien.
Bien garnie, j'imagine.
Forcément.
Mais que vous avez lu tous les livres qu'elle abrite.
Oula, non. Malheureusement, non.
Évidemment non, hein, comme tout le monde. Mais avec la multiplication des visioconférences, hein, afficher une belle bibliothèque chez soi est presque devenu un impératif. Il y a même des architectes d'intérieur qui se sont spécialisés dans l'étagère de bouquins instagrammables. C'est ce que nous apprend cet article du Courrier International. Tout est parti d'une polémique sur Twitter. Une vidéo de l'actrice américaine Ashley Tisdale. Alors, vous ne la connaissez peut-être pas, mais c'est une star de la franchise High School Musical. Dans cette vidéo, elle fait visiter sa maison et elle fait cette confidence. Pour être honnête, mes étagères étaient vides. Il y a encore 2 jours, j'ai demandé à mon mari d'aller à la librairie et d'acheter 400 livres. Face aux moqueries, hein, l'actrice s'est défendue. J'ai fait ce que n'importe quel architecte d'intérieur aurait fait. Et c'est vrai, hein, le Guardian a enquêté et le confirme. L'achat de livres par lot entier est devenu une pratique courante chez les célébrités. Mais le phénomène est bien plus large. Avec le télétravail, tout le monde est très fier d'afficher une bien belle bibliothèque. Et certains en ont fait leur métier, comme Thatcher Wine. Il se présente comme un book curator. Un curator, c'est l'équivalent d'un conservateur dans un musée. Ce monsieur prend donc son rôle très très à cœur. Il faut dire qu'il a travaillé pour les plus grandes stars comme Gwyneth Paltrow, hein, qui l'a dénéché 600 livres pour sa nouvelle maison. Avec son entreprise Juniper Books, il propose des collections de grands classiques choisis avec soin pour se marier avec le reste de la pièce. Ça, c'est écrit tel quel sur son site.
Ah, parce qu'il faut que la tranche soit jolie aussi.
Exactement.
Ouais,
alors évidemment, ça coûte cher, hein, jusqu'à 6000 livres en Grande-Bretagne. 1000 livres la monnaie, évidemment, à plus de 5000 euros. Et ça a une conséquence, vous le disiez à l'instant, Julien, aujourd'hui, les éditeurs font de plus en plus attention au design de leurs œuvres. Alors, quant au fond, les experts ont aussi leur avis. Écoutez, ça peut vous intéresser. Alors, privilégiez les ouvrages de non-fiction, les essais, par exemple, sur des sujets que vous maîtrisez, et évitez les romans, hein, parce que c'est avec eux qu'on se fait avoir lorsqu'un convive vous demande si vous avez lu le dernier Intel raconte une architecte d'intérieur. Réseaux sociaux, qui a la plus belle bibliothèque ? C'est à lire sur le Courrier International.
Alors peut-être aussi de manière plus économe, hein, vous achetez une planche et puis vous collez la tranche des couvertures.
Une fausse bibliothèque.
Ah,
qu'est-ce que vous êtes maligne.
Ça, c'est encore de plus mauvais goût.
C'est triste, vos histoires.
C'est ça.
Merci beaucoup, Martin. J'ai choisi pour ma part un article du Figaro Madame qui devrait grandement intéresser tous ceux qui ont profité de leur week-end prolongé pour justement jouer les prolongations dans les bras de Morphée. J'entends par là les adeptes de la grasse matinée.
La quoi ?
Oui, c'est vous, là, en train de ronfler quand le reste de la France se met à table pour déjeuner.
Ouais, oui. Voilà, sans connaître ça.
C'est encore vous, là, ignorant sciemment les multiples rappels du Radio Réveil en mitouflé que vous êtes sous votre couette. On vous imagine le cheveu collé, gras sur le front, un filet de bave séché au coin des lèvres, ce qui n'enlève rien à votre sourire satisfait, celui que l'on arbore quand on peut se permettre de lézarder jusqu'à 11h, voire au-delà. Un plaisir à peine coupable, puisqu'on se dit que si on a autant dormi, c'est qu'on en avait besoin, qu'on a récupéré de la fatigue accumulée tout au long de la semaine. Eh bien, je suis au regret de vous annoncer que c'est une erreur. Il s'avère que les grasses matinées nous font plus de mal que de bien. Une étude publiée en 2019 dans la revue américaine Current Biology avançait que dormir davantage pendant les jours de repos retarderait dans le cerveau la sécrétion de mélatonine, plus communément appelée l'hormone du sommeil. En clair, la grasse mat le week-end, c'est l'assurance d'un sommeil et d'un réveil compliqué le jour de la reprise. Cela aurait aussi pour conséquence de diminuer notre sensibilité à l'insuline, une hormone spécialisée dans la régulation du taux de sucre dans le sang, ce que confirme une autre étude menée par l'Université d'Arizona. En s'intéressant aux habitudes hebdomadaires de près d'un millier d'adultes, les chercheurs ont mis en évidence, tenez-vous bien, que chaque heure de sommeil supplémentaire pendant les jours de repos augmente de 11% le risque de développer des maladies cardiovasculaires ou un diabète de type 2. Ça impacterait également l'humeur, précisent les auteurs, dont voici la conclusion. Vos grasses matinées vous fatiguent plus qu'elles ne vous repose. C'est un peu comme si vous étiez sur un fuseau horaire la semaine et sur un autre pendant le week-end, explique dans l'article un neurobiologiste. Ça équivaut à faire un aller-retour Paris-New York en deux jours. D'autant que faire dodo en matinée, c'est beaucoup moins réparateur. Le sommeil est plus léger, fragmenté par des micro-réveils dont on n'a pas forcément conscience. À l'inverse, des quatre premières heures de sommeil les plus bénéfiques pour notre organisme. Quoi qu'il en soit, si vous ressentez le besoin impérieux de faire des grasses matinées le week-end, c'est le signe que vous ne dormez pas suffisamment en semaine. C'est l'un des gros problèmes de nos sociétés modernes. On ne cesse de rogner sur notre sommeil pour tout faire rentrer dans nos journées, travail, vie de famille, loisirs, sport, etc. Un rythme infernal qui impose de faire des siestes et d'oublier les grasses matinées.
C'est amusant de parler de grasses matinées à 5h18.
Comment on fait quand on est en matinale si on ne peut pas faire de grasses matinées le week-end ?
On fait un procès à son patron.
J'y penserai, merci.
On décale le petit matin entre 14 et 15. Voilà. Merci, Julia. C'est drôle de parler de sommeil quand on est debout si tôt.
Quand on devrait dormir.
Voilà, merci Martin. Vous serez là, bien éveillé, dans 40 minutes ?
J'espère.
Pour les sports.
À tout à l'heure.
Sur vous, à tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h19 sur Europe 1, les principaux titres, Alban Le Prince.
La guerre en Ukraine entre dans une nouvelle phase redoutée depuis plusieurs semaines. La bataille du Donbass a commencé, annoncé hier soir de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Les autorités ukrainiennes qui recensent au moins 7 morts et 11 blessés après plusieurs frappes à Lviv, une ville située à l'ouest du pays. Moscou annonce de son côté la destruction d'un dépôt important d'armes étrangères récemment livrées à l'Ukraine. Et puis la présidentielle à la veille du débat de l'entre-deux-tours. Les candidats se mettent en retrait de la campagne aujourd'hui après un bain de foule dans le Calvados hier. Marine Le Pen doit rester chez elle aujourd'hui pour se préparer. Emmanuel Macron a quant à lui commencé à s'entraîner hier à l'Élysée.
Europe 1. À 5h20, à présent sur Europe 1, c'est l'interview de celles et ceux qui font bouger le pays. Les initiatives en France vous donnent la parole.
Bonjour Martin Pfast.
Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le cofondateur d'Umi Ami, une start-up française spécialisée dans la viande végétale. Vous avez notamment mis au point un filet de volaille en tout point semblable à un vrai. Les photos sont assez bluffantes et vous allez bientôt passer à la phase industrielle. Expliquez-nous.
Oui, c'est exactement ça. Donc nous, on est Umi Ami, on est la première société au monde à avoir réussi à recréer en fait un blanc de poulet, mais à partir de végétaux. Donc là, on est en train de passer à l'étape industrielle, c'est-à-dire qu'on ouvre notre première usine à Massy, en région parisienne. Et en fait, on est déjà en train de prévoir une deuxième usine encore plus grande, plus importante, ailleurs en France.
Oui, je précise à nos éditeurs que vous venez de boucler une levée de fonds de 26,5 millions d'euros, ce qui est un record dans le secteur de la viande végétale en France, c'est ça ?
En Europe même.
Alors je le disais en introduction, votre filet de volaille 100% végétal ressemble à s'y méprendre à un vrai blanc de poulet. La texture a l'air également comparable, mais qu'en est-il du goût ?
Et là, effectivement, vous l'avez bien mentionné, la texture est comparable. Et en fait, c'est ça le plus grand défi d'un blanc de poulet. Parce qu'un blanc de poulet, ça n'a pas un goût très fort en fait. Hein. C'est assez subtil, c'est assez léger et c'est un goût qui est, on dit, Umami, hein, d'où le nom de la boîte Umami, et qui est du coup un goût qu'on retrouve beaucoup dans la sauce soja par exemple, ou dans les champignons. Donc c'est un goût qui est assez facile à reproduire. Par contre, la texture, elle est super compliquée à obtenir, parce qu'en fait, un blanc de poulet, c'est composé de longues fibres. C'est un muscle, hein, un blanc de poulet, donc il y a de très longues fibres, et réussir à reproduire ces fibres pour donner cette même sensation en bouche, à partir de protéines végétales, ça c'est super compliqué. Et en fait, c'est ça que nous on a réussi à faire pour la première fois, c'est à recréer en fait toute la fibrosité, toute la texture complexe d'un blanc de poulet. Et en fait, pour ce faire, on a juste totalement réinventé, mais en partant de zéro, la façon dont créer des produits végétaux. Ce qui est intéressant, c'est que en faisant cela, on a pu aussi réinventer les ingrédients qu'on met dedans et on a pu mettre les choses à plat et choisir d'utiliser des ingrédients qui sont nettement plus respectueux de la santé des consommateurs, avec aussi une liste d'ingrédients qui est beaucoup plus courte.
C'est-à-dire qu'à la différence des produits de la concurrence, le vôtre, il y a de la mâche. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment d'avoir un filet de poulet dans la bouche.
Exactement, et même visuellement en fait. Hein. Visuellement, quand on plante son couteau dedans et qu'on coupe un morceau, en fait, on se rend compte qu'il y a toutes ces fibres et ça ne fait pas pâté, quoi, ça ne fait pas tofu. C'est exactement ça.
Quels sont les ingrédients que vous utilisez, sans tout nous dévoiler évidemment, parce que j'imagine qu'il y a de nombreux brevets et de procédés ultra secrets derrière, mais fondamentalement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ?
Quand même, les ingrédients, je vais vous les dévoiler parce que c'est quand même la moindre des transparences qu'on doit aux consommateurs. Donc les ingrédients, en fait, c'est assez simple. Hein. On parle généralement d'à peu près 6 ingrédients selon la version. Donc d'abord, il y a une protéine. Donc ça peut être du soja, ça peut être des pois, voilà. Donc une protéine végétale. Ensuite, il y a de l'huile. Donc ça peut être de l'huile de karité par exemple ou de l'huile de tournesol, généralement juste quelques pourcents, voilà, pour donner un peu d'onctuosité au produit. On a des arômes naturels, du sel et généralement un peu d'acide pour la conservation et bien sûr de l'eau, hein, parce qu'on imite quand même un produit qui est composé à 70% d'eau, donc il faut avoir un petit peu d'eau. Et du coup, avec ces simples ingrédients, sans texturant, sans gomme, sans méthylcellulose, en fait sans ingrédients que le consommateur n'arriverait pas à reconnaître, on arrive à recréer, grâce à notre nouveau procédé, un blanc de poulet.
Et en valeur nutritive, votre filet de volaille 100% végétal fait aussi bien que le 100% animal ?
Absolument. Là aussi, on est sur des nutriscores A ou B selon les versions, avec 20% de protéines, donc c'est quand même considérable. Donc c'est quand même un produit qui est nutritivement riche et bon. On n'a pas non plus... On a en fait les mêmes nutritions de base qu'un blanc de poulet, même au niveau du gras. On a à peu près les mêmes gras saturés, les mêmes gras insaturés. En fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'aller permettre au consommateur de remplacer son blanc de poulet non seulement gustativement, mais aussi par l'expérience culinaire, ça c'est super important, et par la nutrition.
Quand est-ce qu'on pourra l'avoir dans nos assiettes, ce filet de volaille végétale ?
Ouais, très bientôt, figurez-vous, parce que là, du coup, on est en train d'inaugurer notre première usine à Massy. On est en train de faire ce qu'on appelle le commissionnement. Donc ça consiste à aller tester toutes les machines pour réussir à faire fonctionner la ligne de production. Donc ça, normalement, d'ici moins de 2 mois, ce sera fini et donc on pourra passer en production commerciale. Et là, on va du coup, dès le mois de juin, envoyer nos premières palettes à nos clients et ce produit sera disponible du coup en France et à l'international. Donc on le retrouvera normalement dans plusieurs pays européens et aussi en Amérique du Nord.
Donc si je comprends bien, vous allez fournir d'autres marques, mais vous ne vendrez pas en direct.
Exactement. En fait, nous, on est un industriel, hein. Donc on se concentre sur la technologie, sur la production. Mais on a décidé de ne pas créer de marque, parce que des marques bien, il y en a déjà plein, y compris en France, des marques dans le végétal. Donc pourquoi aller se mettre en concurrence avec toutes ces marques-là, qu'on peut travailler ensemble? Nous, on se concentre sur ce sur quoi on est bon, donc c'est la technologie, la production. Et ensuite, on crée des partenariats avec des marques, on leur fournit les produits, et c'est elles qui vont ensuite les commercialiser sous leur marque.
Dernière question, Martin Pfast, est-ce que vous travaillez sur d'autres viandes, comme le bœuf ou le poisson, par exemple?
Ah oui, tout à fait, parce que en fait, nous, ce qu'on a créé, c'est un procédé pour créer ces fibres, hein, dont je vous parlais. Donc, quand vous pouvez maîtriser la direction des fibres, la quantité d'eau, de gras, les arômes, vous pouvez en fait créer tout un tas de viande et de poisson. Donc, à long terme, on peut imaginer, bien sûr, du bœuf, du porc, mais même plus facile encore à court terme, on peut imaginer, par exemple, faire un filet de cabillaud. Et ça, ce sont tout à fait des choses qui sont dans notre roadmap.
Merci beaucoup, Martin Pfast, de nous avoir présenté Umiami et son filet de volaille 100% végétal et peut-être à l'avenir d'autres types de viande végétale qu'on a hâte de goûter. On vous souhaite beaucoup de succès et on vous dit à bientôt.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bienvenue à vous si vous n'êtes branché Europe 1. Dans un instant, le journal de 5h30 de Christophe Lamar. Et puis juste après, on va se pencher sur les maux de tête qui touchent chaque année une personne sur deux dans le monde.
Il peut englober ce mal de tête, la surface du crâne, ou se localiser du côté droit ou du côté gauche du visage, mais aussi dans la nuque. Le mal de tête peut durer quelques heures, quelques jours, voire des semaines. Quelles sont les causes, les facteurs qui favorisent ce mal de tête? Comment le soigner? Et d'ailleurs, quelle est la différence entre une céphalée et une migraine? Des questions que nous poserons dans un quart d'heure à Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer.
On retrouvera ensuite Nicolas Caro qui va venir avec des romans drôles aujourd'hui.
Oui, un livre d'humour british, un roman de Gustave Flaubert et deux livres américains, autant vous dire qu'il aura les bras chargés.
La météo avec Murprotec, leader de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic complet actuellement offert, toutes les infos sur murprotec.fr.
On monte en gamme avec Anissa Haddadi pour la météo. Ciel couvert à l'ouest, ensoleillé à l'est.
Oui, en fait, nous avons une perturbation qui vient d'Espagne et qui remonte aujourd'hui tout le long de la façade ouest avec des pluies, évidemment. Hein. C'est vrai qu'on a un ciel très chargé, mais pas mal d'averses. Des pluies soutenues sur les Pyrénées-Atlantiques. Dans la journée, les pluies vont remonter jusqu'au Limousin, Poitou-Charentes, jusqu'au centre-Val de Loire. Ce matin, hein, déjà, on a quelques gouttes jusqu'en Vendée. Cet après-midi, les pluie arrive jusqu'en Bretagne, en Normandie. Le massif central est également touché. À l'est, ça va beaucoup mieux, hein, de l'Alsace à la Provence. Là, on a une journée très lumineuse et très agréable, encore une fois, avec des températures très douces. Alors, les températures, de manière générale, elles vont baisser par rapport à ce week-end presque estival que nous avons eu. 1 degré à Charleville-Mézières ce matin, 4 pour Lorient, 7 à Aurillac, 8 degrés à Paris, Limoges, 14 à Perpignan. Et puis, cet après-midi, une vraie différence entre l'ouest et l'est. 12 degrés à Saint-Brieuc, 22 à Marseille, Lyon, 19 à Paris et 25 pour Orange.
C'est noté, merci beaucoup Anissa Haddadi et à tout à l'heure. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce mardi, la bataille du Donbass qui a commencé. L'armée de Vladimir Poutine a lancé son offensive pour conquérir l'est de l'Ukraine. Bombardement massif dans la région de Donetsk. La ville de Kremina serait tombée aux mains des forces russes. La campagne pour l'élection présidentielle cherche assesseur pour tenir les bureaux de vote. La République en marche et le Rassemblement national se font tirer l'oreille pour fournir des militants en nombre suffisant. Et puis le foot, Bordeaux, monument en péril, avant-dernier du championnat. Les Girondins n'ont jamais été aussi proches de la Ligue 2.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est avec Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Elle était annoncée comme imminente. La bataille pour la conquête du Donbass a commencé hier soir. Deuxième phase de la guerre déclenchée par les Russes qui concentrent désormais leurs efforts dans la partie est de l'Ukraine. Bombardement intense signalé dans la région de Donetsk. L'armée de Vladimir Poutine avance en direction de Kramatorsk, capitale du Donbass. C'est ce que constate cet habitant, conscient d'être pris au piège.
Ici, la situation est très très compliquée. Beaucoup de villes ont été bombardées. Par exemple, à Kramatorsk, la zone de bombardement est aujourd'hui à 40 km de la ville. Nous entendons les bombes tomber toutes les nuits. parce que nous sommes à moins de 175 km des tirs, dans la zone la plus dangereuse. Les gens veulent fuir vers des lieux plus sécurisés, mais c'est vraiment très très difficile.
Un témoignage recueilli par Guillaume Dominguez, les Russes auraient pris position à Kremina, située à une cinquantaine de kilomètres de Kramatorsk. C'est ce qu'indique le gouverneur ukrainien de la région. Le président américain Joe Biden annonce une réunion virtuelle aujourd'hui avec les alliés des États-Unis à propos de cette offensive russe dans le Donbass.
En Israël, la crainte d'un nouvel embrasement plus que jamais d'actualité après les violences du week-end à Jérusalem.
L'aviation israélienne a mené une série de raids aériens contre un dépôt d'armement du Hamas situé dans la bande de Gaza. Bombardement en représailles et un tir de roquettes venu de cette enclave palestinienne après un week-end marqué par une série d'affrontements à Jérusalem entre Palestiniens et Israéliens qui ont fait plusieurs dizaines de blessés.
5 heures passées de 32 minutes sur Europe 1. On parlera dans un instant du second tour de la présidentielle, mais une autre campagne se prépare déjà, celle des législatives. 11 et 19 juin, notez bien, une nouvelle épreuve pour les Républicains.
Le parti doit digérer la lourde défaite de Valérie Pécresse au premier tour de la présidentielle. Petite satisfaction pour la candidate, son appel aux dons pour l'aider à rembourser ses frais de campagne a été entendu. 1 400 000 euros sont rentrés dans les caisses. Un nouveau combat s'annonce, celui des législatives. Les Républicains jouent une partie de leur avenir, Alexandre Chauveau.
Oui, et le parti veut rester ambitieux malgré la claque reçue à la présidentielle. Alors si personne n'exclut des bonnes surprises, la droite vise d'abord et surtout la réélection du maximum de députés sortants. 80 élus sur les 104 actuels devraient ainsi remettre leur siège en jeu. Parmi les sources d'espoir, l'ancrage local, que beaucoup de députés feront valoir comme argument principal, et la très grande hostilité de certains électeurs envers Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, qui pourraient jouer en faveur de LR en cas de duel au second tour. Mais la grande inconnue à ce stade, c'est le nombre de députés LR qui pourraient basculer dans la future majorité. Plusieurs d'entre eux sont d'ailleurs en discussion, parfois avancés avec les proches d'Emmanuel Macron. Après le second tour, ça va tomber comme des dominos, anticipe un connaisseur du parti. Plusieurs cadres misent ainsi sur une vingtaine de départs d'élus en cas de réélection du président sortant. Une inquiétude partagée par ceux qui se disent sûrs de rester. Si on garde 50 députés, ce sera déjà pas mal, lâche un conseiller qui, comme beaucoup, aimerait éviter la débâcle du Parti Socialiste, passé de 258 à 30 députés entre 2012 et 2017.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Et d'ici au mois de juin, la France aura élu son ou sa présidente. Et si les deux candidats préparent le débat de mercredi, demain soir, donc il y a aussi l'organisation du scrutin proprement dit. Et là, les bras manquent.
Le problème s'était déjà posé pour le premier tour. Dans certaines communes, le manque d'assesseurs est criant. Impossible de tenir le bureau de vote dans ces conditions. Le maire de Tarbes est très en colère. Il lui manque une dizaine de volontaires à ce jour. Dans son viseur, La République En Marche et le Rassemblement National, accusés de ne pas fournir le contingent nécessaire. Reportage Benjamin Péter.
C'est un mépris de la démocratie.
Le maire LR de Tarbes ne décolère pas. Au premier tour déjà, sur les 170 assesseurs requis dans la ville, seule la France Insoumise en a envoyé une vingtaine. Les autres formations politiques n'étaient pas ou peu représentées. Et pour le second tour, il manque à Gérard Trémège près de 70 assesseurs.
À l'heure où je vous parle, les assesseurs de La République En Marche, j'en ai 10. Pour Madame Le Pen, pour l'instant, j'en ai 0. Ah ben les autres, ils s'en foutent. Comme ils n'ont pas de candidat, ils présenteront personne. Quand il faut venir bosser, tenir les bureaux de vote, il n'y a personne. Il faut quand même qu'ils acceptent de sacrifier des dimanches, comme nous le faisons. On aimerait bien ne pas être seul. Il est anormal que tous ces militants, le jour de l'élection, eh bien, partent à la pêche, partent en montagne ou à la mer. Et ils se foutent du déroulement d'élections. C'est scandaleux.
Alors les représentants de La République En Marche expliquent qu'ils n'ont fait que répondre aux besoins d'assesseurs exprimés par la mairie, qu'ils sont prêts à en fournir davantage si nécessaire. Le Rassemblement National des Hautes-Pyrénées, de son côté, indique qu'il déploie exclusivement des délégués pour vérifier la conformité du vote, mais pas d'assesseurs, et renvoie le maire à ses responsabilités d'organisateur du scrutin. À Tarbes, Benjamin Péter, Europe 1.
Emmanuel Macron et Marine Le Pen focalisés sur leur face-à-face. Demain soir, la candidate du Rassemblement National est restée chez elle pour préparer son duel. Préparation en petit comité pour Emmanuel Macron. Le président sortant est resté une partie de la journée d'hier à l'Élysée à relire ses notes.
La crise sanitaire plus la guerre en Ukraine égale inflation galopante. Dernière victime en date, la voiture dont les prix s'envolent.
Conséquence de l'inflation qui gagne progressivement des secteurs entiers, le prix de vente des voitures neuves et d'occasion s'envole plus 15% en moyenne. Exemple pour une Peugeot 208 essence, la facture s'est alourdie de 2670 euros en deux ans. Conséquence de la pénurie de composants deux ans et de l'explosion du coût des matières premières comme l'aluminium et le plastique.
On passe au foot, la Liga va bientôt rendre son verdict et à la veille du coup d'envoi de la 33e journée, la peur s'installe du côté de Bordeaux.
Les Bordelais affronteront Saint-Etienne l'avant-dernier contre le 17e, autant dire qu'en cas de défaite, les Girondins se rapprocheraient d'une descente en Ligue 2, une catastrophe pour le club après 30 ans de présence en Ligue 1. Bordeaux doit absolument réagir, Cyril de la Morinerie.
Oui, Bordeaux qui vient de fêter ses 140 ans d'existence est en train de sombrer. Les matchs des Girondins se terminent souvent par des scores de tennis. Défaite 6-0 à Rennes ou encore un humiliant revers 6-1 à Lyon le week-end dernier. Même l'entraîneur David Guillon, arrivé mi-février, réputé pour bien faire défendre ses équipes, n'y comprend plus rien.
Ça m'interroge, ces faiblesses individuelles et ce manque de remise en cause de mes joueurs.
Et voilà comment Bordeaux se retrouve pire défense d'Europe avec 77 buts encaissés. Les malheurs bordelais ont commencé en fait il y a 4 ans avec la vente du club par M6. Un fonds de pension américain qui n'y connaissait rien au foot a fini par jeter l'éponge. L'ancien président de Lille, Gérard Lopez, a repris un club endetté. Cet hiver, ni le départ du défenseur Laurent Koscielny ni l'arrivée de nouveaux joueurs n'ont changé la donne. Ce club va droit dans le mur. Se désoler il y a encore quelques semaines sur Europe 1, le légendaire Alain Giresse.
Je suis dans l'inquiétude parce que c'est quelque chose que je n'imaginais pas et qui prend des proportions au-delà de l'inquiétude.
À 6 matchs de la fin, la survie du club en Ligue 1 ne tient plus qu'à un fil.
33e journée de Ligue 1. Demain soir, Bordeaux-Saint-Etienne à 19h. Le PSG se déplacera à Angers. Paris tout proche d'un 10e titre de champion de France. Un succès des Parisiens et une défaite de Marseille face à Nantes lui offrira le sacre.
Merci beaucoup Christophe Lamar pour toutes ces informations. Après le foot, on passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. Il y aura un Quintet Plus cet après-midi sur l'hippodrome d'Auteuil. Une course de haie handicap réservée aux chevaux âgés de 5 ans. Et parmi les 16 partants, il est impératif de faire confiance au numéro 1, Air Commodore, irréprochable dans cette catégorie des quintets, 4 courses, 1 victoire et 3 fois dans les 5 premiers. Dépendant de l'entraînement de Daniel Amélé, dont tous les pensionnaires sont actuellement en très grande forme, Air Commodore, même s'il effectuera sa rentrée après 4 mois d'absence, me semble être un favori solide. On lui opposera les numéros 9, Hirson, qui se recommande d'une excellente deuxième place dans un quintet similaire le 6 mars à Auteuil, 10, Hypercute de Thay, prometteur quatrième ce jour-là, et 7, Dinosaure, qui sera cette fois muni d'une paire d'œillères australiennes, afin qu'il soit un petit peu plus concerné par son job de cheval de course. Enfin, les numéros 2, Chichi de la Vega, 6, Inside Montliou, 4, Osaville et 5, Eliantus compléteront ma sélection. Mon pronostic, As, 9, 10, 7, 2, 6, 4 et 5.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu
de... C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Avec ce matin, un mariage mythique, longtemps surnommé le mariage du siècle, celui du prince régnier de Monaco et de l'actrice Grace Kelly. C'était le 19 avril 1956. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour Omblin, bonjour Julien.
Élise, les yeux du monde entier étaient rivés sur ce mariage.
Et oui, il faut dire que la machine médiatique s'est très vite emballée dès l'annonce de leur fiançailles en janvier 1956. Le couple se connaissait alors depuis 8 mois. Et pourtant, le grand public voyait en cette histoire d'amour une forme d'authenticité jugée assez rare chez les têtes couronnées. En témoigne cette interview du prince régnier décrochée par Europe 1 quelques jours avant le mariage. C'était au micro de Pierre Laforêt.
Mon Altesse Sérénissime, le prince régnier, prince de Monaco, a bien voulu me recevoir dans sa cabine. Monseigneur, vous savez que votre histoire d'amour est la plus belle histoire que nous connaissions en France. Ça nous passionne tous.
Vous êtes très gentil. C'est une histoire d'amour très belle, comme vous l'avez dit, parce que c'est une histoire vraie. Et ce n'est pas du tout une histoire fruit de publicité ou artificielle.
Quelques jours plus tard, le 12 avril 1956, Grace Kelly foule les terres monégasques. La ville est en effervescence. 1500 journalistes du monde entier sont présents.
Mais voici les sirènes, toutes les sirènes du port de Monaco qui se font entendre.
Les futurs époux ont pris place dans la voiture.
Les barrages de police sont rompus, la foule se répand maintenant sur le parcours. Et vous allez probablement entendre les applaudissements qui vont saluer au passage, dans 2 secondes, la future princesse de Monaco. En effet, la voici, des bras s'agitent, des casquettes aussi.
Eh ben, on a vu arriver notre future princesse.
Oui, dans la cuissière.
Avec grand plaisir, oui.
Les festivités peuvent enfin commencer, Elise.
Absolument. Elle, qui était la muse d'Alfred Hitchcock, a dû renoncer à sa carrière d'actrice. Avec le prince régné, ils donneront naissance à 3 enfants, Caroline, Albert et Stéphanie. La fin est tragique, vous la connaissez. Grace Kelly meurt des suites d'un tragique accident de voiture le 14 septembre 1982.
Merci beaucoup, Elise Dangean, et à demain pour un nouveau jour où. Dans un instant, le mal de tête qui touche chaque année une personne sur deux dans le monde. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
5h43 sur Europe 1, excellent début de matinée. On les appelle céphalées ou migraines. Ce sont les maux de tête les plus fréquents et la moitié d'entre nous en souffre au moins une fois par an. C'est ce qu'affirme à nouveau une étude publiée par des chercheurs d'une université norvégienne. On en parle, Omblin, avec Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer.
Bonjour professeur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 pour revenir sur cette étude qui compile près de 60 ans de données scientifiques. Les maux de tête touchent la moitié de l'humanité et chaque jour, près de 16% de la population mondiale se plaint d'un mal de tête, c'est-à-dire une personne sur 6. Alors quand on parle de mal de tête, professeur, de céphalée, de migraine, est-ce qu'on parle de la même chose ?
Alors en fait, on parle d'abord de mal de tête. C'est le premier signe qui apparaît, c'est-à-dire qu'on a une souffrance qui vient de notre tête, de notre cerveau. Et ensuite, en tant que médecin, quand on analyse beaucoup plus précisément, on s'aperçoit que tous les maux de tête ne sont pas comparables. Et on définit ainsi ce qu'on appelle des migraines, des céphalées de tension, des céphalées qui ont une durée supérieure à un certain temps. Donc il y a différentes catégories à partir de ce symptôme qui est le mal de tête.
Il en existe de nombreux types de mal de tête, ça varie beaucoup d'un patient à l'autre.
Alors en fait, le type de mal de tête en lui-même est à peu près toujours de même nature. Ce sont soit ce qu'on appelle des céphalées de tension, c'est des douleurs continues qu'on a souvent en fin de journée, plutôt modérées, plutôt diffuses, qui généralement n'augmentent pas à l'effort et sont parmi les plus répandues. À côté de ça, on a ce qu'on appelle la migraine. Et comme le nom l'indique, migraine, ça veut dire que c'est une céphalée, un mal de tête qui touche la moitié du crâne. La migraine, et c'est souvent par crise, c'est souvent avec des sensations pulsatiles dans la tête, et souvent exacerbé par l'effort. Ça peut être accompagné par d'autres manifestations, des problèmes ophtalmiques, des petits déficits, et ça correspond là à une entité extrêmement particulière qui est liée à une réaction vasomotrice du cerveau. Troisième type de céphalée, il y en a énormément ensuite, qui sont plutôt liées à leur cause et souvent lorsqu'elles deviennent chroniques, c'est-à-dire qu'elles durent plus de 15 jours, il faut absolument, dans tous les cas, faire un bilan pour en connaître la cause. Certaines peuvent être graves, par exemple une méningite peut entraîner des maux de tête, des anomalies cérébrales peuvent entraîner des maux de tête, c'est donc un symptôme qu'il ne faut surtout pas négliger.
On ne sait pas vraiment pourquoi un mal de tête se déclenche, ça dépend aussi d'une personne à l'autre, ça peut être la nourriture, l'environnement, la génétique.
Alors, la génétique, oui, en partie, puisque en particulier certaines migraines sembleraient associées à certains facteurs de prédisposition, ça ne veut pas dire que ce soit transmis familialement, mais c'est une prédisposition à faire des migraines. Les céphalées de tension, on les rencontre à peu près chez tout le monde, puisque ça touche, comme le dit cette étude, près de... Pendant un an, au moins une personne sur deux aura des maux de tête et tous les jours, à peu près, on considère que 16% de la population a ou aura mal à la tête. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui doit être pris sérieusement et la plupart du temps, heureusement, c'est quelque chose qui est bénin, qui passe de manière symptomatique et souvent lié à parfois des surmenages, à une fatigue de fin de journée. Si ça dure trop longtemps, si ça ne se passe pas simplement avec de simples antalgiques, à ce moment-là, il faut bien penser à consulter son médecin et savoir s'il n'y a pas, surtout si la céphalée dure, un autre problème sous-jacent.
Les femmes sont plus sujettes aux maux de tête que les hommes, cette nouvelle étude le confirme également, 58% contre 44%. Pour quelle raison, professeur Philippe Amouyel ?
Ben, on ne sait pas bien spécifiquement. Est-ce que c'est lié au contexte hormonal féminin ? On n'a pas d'idée particulière. On trouve en effet des migraines plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes. On a également un effet âge, puisque souvent, jusqu'à la puberté, l'enfant ne se plaint pas de maux de tête. S'il se plaint de maux de tête, c'est souvent que c'est grave, c'est à l'origine d'une méningite, d'un autre problème. Il faut y faire très attention. Ça commence à apparaître à la puberté et à l'autre bout de la vie, après 60 ans, on voit moins fréquemment des problèmes de céphalée et de maux de tête également. Donc il y a vraiment cet aspect, on va dire, sexe, c'est-à-dire être une femme, et cet aspect âge qui sont deux éléments qui modifient cette fréquence des maladies et des maux de tête.
Une femme qui atteint la ménopause ne souffre plus ou moins de migraines ?
Alors, ça dépend des femmes, hein, mais souvent, en effet, on voit parfois ces migraines se ralentir avec l'âge en particulier, puisqu'on les voit souvent démarrer aux alentours de l'adolescence, se poursuivre à l'âge adulte, puis ensuite s'estomper avec le temps.
Quels sont les bons réflexes pour soigner les maux de tête? On peut s'auto-soigner, en tout cas on le fait tous, un comprimé, ou est-ce qu'il y a des méthodes un petit peu alternatives ou plus naturelles peut-être,
hein? Alors, tout va dépendre du type de mal de tête. Souvent, les gens connaissent la survenue de leur maux de tête. Hein, en particulier, les gens qui ont des migraines savent que dans certaines circonstances de fatigue, de stress, de manque de sommeil, ils peuvent voir apparaître des maux de tête. Et certains ont leur truc à eux. En particulier, utilisent des substances qui sont vasoconstrictrices. Parce que généralement, c'est une réaction vasodilatation, vasoconstriction des vaisseaux du cerveau. Et en particulier, juste avant, quand ils commencent à avoir les premiers symptômes de cette migraine qui arrive, prennent par exemple des fois un café ou un thé qui souvent réduit ou arrive à limiter la crise de migraine. Sinon, si la crise s'engage avec des troubles qui peuvent être parfois légers, neurologiques, mais également des vomissements, des nausées, une photophobie, c'est-à-dire qu'on est gêné par la lumière, à ce moment-là, il existe des traitements très spécifiques de la migraine qui doivent être prescrits médicalement et surveillés. Pour le reste, ce sont des céphalées de tension, souvent fin de journée, souvent après avoir travaillé devant un écran, souvent dans un contexte un peu de stress, d'angoisse, qui, là encore, grâce à des médicaments extrêmement simples comme des antalgiques légers, comme du paracétamol par exemple, peuvent disparaître et souvent disparaissent ensuite après une bonne nuit de sommeil.
Alors un comprimé suffit en général à supprimer la douleur, hein, paracétamol ou aspirine, mais pour les personnes qui souffrent de migraines répétées, importantes, qui en souffrent presque tous les jours, la médecine avance, existe-t-il aujourd'hui un ou plusieurs traitements peut-être expérimentaux?
Oui, il existe des traitements ce qui concerne la migraine. La migraine à proprement parler, ça touche la moitié de la tête, qui est pulsatile, qui survient dans des conditions particulières, qui entraîne une symptomatologie particulière. Il existe des médicaments que l'on dit anti-migraineux, qui sont maintenant prescrits par les médecins et qui sont d'une très grande efficacité. Donc, ce côté-là, on a résolu pas mal de ces problèmes. Néanmoins, ces crises ont tendance à survenir et la plupart du temps, c'est essentiellement l'âge qui amènera leur réduction.
Merci beaucoup, Philippe Amouyel, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer. Merci encore. Très bonne journée.
Très bonne journée.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est bientôt 6h10 sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Voici le journal permanent, Alban Le Prince.
Et cette pluie de bombes qui s'abat sur le Donbass depuis quelques heures, la bataille à l'est de l'Ukraine a commencé. Annonce hier soir de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui met en garde Moscou. Nous combattrons, nous nous défendrons. Une attaque condamnée par Marine Le Pen dans la soirée. La candidate du Rassemblement National à la présidentielle indique soutenir tous les efforts diplomatiques possibles pour parvenir à un cessez-le-feu et imposer la paix pour que l'Ukraine retrouve son entière souveraineté. À Bruxelles, ouverture aujourd'hui du procès de 14 complices présumés des commandos djihadistes du 13 novembre 2015 à Paris. Procès renommé Paris Bis. 12 prévenus seront présents dans le box. Les deux autres sont présumés morts en Syrie.
Allez, une respiration à présent. La chronique littérature du mardi.
Avec notre spécialiste Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Omblin, bonjour Julien.
Nicolas, bonjour. En cette période stressante, vous avez eu la très bonne idée de nous proposer quelques livres pour nous changer justement les idées, des romans drôles.
Oui, et c'est une gageure que de faire rire par la littérature. C'est rare les romans qui font rire, mais vraiment rire. Et pourtant, il y en a. On commence par un Français, un certain Gustave Flaubert. Bon, Madame Bovary ou Salambo, c'est pas vraiment la grosse galéjade, mais Bouvard et Pécuchet, oui. Roman inachevé, deux idiots qui se rencontrent par hasard à Paris et ils vont cumuler leurs deux idioties et c'est très drôle. Mais c'est de l'humour français, c'est de la raillerie. En fait, Flaubert se moque de la société de son époque, de la bêtise de ses contemporains. Il est dur, mais c'est drôle, il a expliqué pourquoi il avait écrit ce livre, je cite, « Tout cela dans l'unique but de cracher sur mes contemporains le dégoût qu'ils m'inspirent. »
Et il vaut mieux en rire qu'en pleurer, c'est ça.
Exactement. J'ai de l'humour british, si vous voulez, dans un autre genre. Le Guide du Voyageur Galactique, par exemple, signé Douglas Adams, écrit en 1978. C'est un chef-d'œuvre un peu oublié en France, mais toujours disponible chez Folio. C'est un humour absurde, à la Monty Python, si vous voulez. Au départ, c'était un feuilleton radiophonique et c'est devenu un roman. En 5 tomes, on dit même une trilogie en 5 tomes, puisque l'auteur voulait faire une trilogie, mais il n'a pas résisté à en écrire 2 autres. Et comme il est têtu, il a quand même gardé l'idée de trilogie, donc trilogie en 5 tomes. Voici les titres. Le Guide du voyageur galactique, donc, c'est le premier. Ensuite, vous avez le dernier restaurant avant la fin du monde, puis la vie, l'univers et le reste. Salut et encore merci pour le poisson, ça c'est le quatrième. Et enfin, globalement inoffensive, l'histoire rapidement, c'est celle d'Arthur Dent, un humain. Il est embêté parce que des bulldozers sont dans son jardin, sa maison doit être détruite. Mais en fait, ça n'a pas tellement d'importance puisque la Terre elle-même va être détruite aussi dans 5 minutes. Heureusement, son meilleur ami arrive, il lui demande de se munir d'une serviette de bain. Il lève le pouce en l'air et ils sont pris en stop par un vaisseau spatial qui passait au-dessus de la Terre. En fait, son ami n'est pas humain. Il travaille pour le guide du voyageur galactique, sorte de guide du routard de l'espace. Et on les suit donc dans un grand périple intergalactique. Ils rencontrent tout un tas d'extraterrestres bizarres. Ils visitent des planètes improbables et ils sont accompagnés de Marvin, un robot dépressif. Il a ce genre de réplique, Marvin. Mes capacités intellectuelles de toutes sortes sont aussi illimitées que l'espace lui-même, si l'on ne tient pas compte, bien sûr, de mon aptitude au bonheur. Dans ce domaine, mes capacités pourraient tenir à l'aise dans une boîte d'allumettes sans qu'il soit même besoin de la vider. C'est drôle de bout en bout.
Ça a l'air savoureux, effectivement. Alors, français, anglais, un américain peut-être ?
Deux même. Tenez, je vous conseille La Conjuration des imbéciles. Un type complètement imbu de lui-même, spécialiste d'histoire médiévale mais très laid et feignant comme personne. Il vit chez sa mère et passe son temps à critiquer le monde entier. Il vit de petits boulots quand il arrive à se motiver. Il rate tout sur tout. C'est un livre très drôle mais aussi très profond. On ne voit pas le monde de la même façon après avoir lu ce livre. Toujours chez les Américains, il y a Jim Thompson, notamment pour l'un de ses chefs-d'œuvre, Pottsville, 1280 habitants, les aventures d'un shérif dans une petite ville américaine. C'est du western, sauf que le shérif n'est pas courageux du tout. Il est lâche, veule et glandeur, mais là encore, c'est hilarant.
Merci beaucoup, Nicolas Caro, pour tous ces conseils, lecture, humour. On vous retrouve bien sûr dimanche à partir de 14h dans La Voix et Livre.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h57, dans un instant la météo, le journal et votre invité Julien.
Le porte-parole du Rassemblement National, Julien Sanchez, l'un des plus proches conseillers de Marine Le Pen. On va lui demander comment la candidate du RN prépare le débat qu'il opposera demain soir à Emmanuel Macron. Match retour après le face-à-face qu'elle avait perdu il y a 5 ans, ce débat raté qu'il a longtemps hanté. Quelle Marine Le Pen apparaîtra demain soir ? Celle qui se voit comme une femme d'État, calme, mesurée et sûre de ses dossiers. Comment prépare-t-elle ce rendez-vous crucial alors que tous les sondages la donnent perdante dimanche soir? Et bien voilà quelques-unes des questions que l'on va poser à notre invité Julien Sanchez d'ici une dizaine de minutes à présent. Et puis juste après, Omblin, votre partition.
La rencontre entre deux monstres sacrés de la chanson française.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude.
Serge Reggiani qui chante Georges Moustaki, la partition dans 20 minutes.
La météo avec Murprotec, leader de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic complet actuellement offert. Toutes les infos sur murprotec.fr.
Le retour d'Anissa Haddadi pour la météo qui sera très agréable dans l'est du pays.
Ah oui, là il va faire beau. C'est vrai que sur la moitié ou moitié est, c'est très agréable encore. De la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à la Méditerranée, on a un soleil radieux aujourd'hui. Ça sera un petit peu plus voilé sur la Bourgogne. C'est vrai que c'est à partir de la région Rhône-Alpes là que vraiment le soleil est radieux dans un ciel totalement dégagé. Sur le Languedoc-Roussillon, eh bien, la matinée est assez calme, mais le temps va se dégrader puisque le mauvais temps arrive par l'ouest, effectivement, où déjà ce matin, nous avons de l'humidité. Alors, des Pyrénées jusqu'au bassin aquitain sur le quart sud-ouest, on a une dégradation, effectivement, venue d'Espagne qui apporte pas mal de nuages et surtout pas mal de pluie. C'est sur le Pays Basque hein, que les pluies sont les plus soutenues aujourd'hui. Des côtes normandes, donc plus au nord, hein, des côtes normandes jusqu'au bassin parisien, là, on a un ciel voilé qui laissera de temps en temps passer de belles éclaircies. Et puis les températures, elles sont en légère baisse aujourd'hui, à faire plus frais que ce week-end, avec 3 degrés à Nancy, 8 à Paris et 10 à Montpellier.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1 et on vous en remercie. Nous sommes le mardi 19 avril. Il est 6h. À Shanghai, le Covid explose, la colère des habitants aussi. Certains se révoltent même contre le confinement drastique imposé dans la ville chinoise. Un témoignage à suivre d'une expatriée française. Cela sera sûrement une étape décisive dans la guerre entre Moscou et Kiev. La bataille du Donbass a commencé, une offensive redoutée que l'armée russe prépare depuis des semaines. La guerre en Ukraine, justement, voilà un thème qui sera abordé demain soir pour le débat de l'entre-deux-tours, le pouvoir d'achat et l'écologie également. Et justement, que proposent les deux candidats pour les automobilistes ? Éclairage à suivre dans ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche. Roche et Julien Pierce.
Journal qui vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Les autorités chinoises sont-elles en train de perdre le contrôle? 10 morts à Shanghai, dernier des comptes Covid publié cette nuit dans la capitale économique du pays où la colère gronde.
Un bilan étonnamment léger pour la ville la plus peuplée de Chine et qui dénombre chaque jour 20 000 nouveaux cas, soit la pire flambée épidémique.
Et un confinement drastique, interdiction de sortie, fermeture des lieux publics et logements réquisitionnés en centre de quarantaine. D'un bout à l'autre de la mégalopole, des scènes de révolte et des habitants exaspérés, à commencer par les 7000 Français expatriés. Catherine, franco-écossaise, raconte un quotidien irrespirable.
Les premiers jours, il n'y avait pas de livraison, on ne pouvait pas se faire livrer. Mais depuis peut-être une semaine maintenant, ça va beaucoup mieux. On arrive à se faire livrer assez facilement. On a l'essentiel. Il nous arrive d'être testé 2 fois dans la journée. Obligation de faire le self-test le matin avec le test PCR l'après-midi. On a du mal à savoir à quoi ça rime. Ce test sur test sur test. Et puis, on ne voit pas trop, en effet, quand on va pouvoir sortir.
Un témoignage recueilli par Nina Droff pour Europe 1. C'est une bataille cruciale qui pourrait sceller l'avenir de l'Ukraine. L'offensive redoutée dans le Donbass a commencé hier soir, selon les autorités ukrainiennes. Après ces premières heures, où en sont les combats dans cette région de l'Est? On retrouvera notre envoyé spécial William Molinier dès le journal de 7h.
Cela n'était pas arrivé depuis des mois, des frappes israéliennes sur la bande de Gaza cette nuit.
Des représailles après, un tir de roquette, pas d'apaisement après déjà un week-end de violence près des lieux saints de Jérusalem. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce matin. Une quarantaine de personnes, israéliens et palestiniens, a été tuée depuis fin mars.
Marine Le Pen s'isole, Emmanuel Macron lui bachote. Les deux candidats préparent à leur manière le temps de l'entre-deux-tours. Débat de l'entre-deux-tours.
J-1 tout à fait avant ce rendez-vous crucial que vous pourrez suivre en direct sur Europe 1, soirée spéciale dès 20h. Un débat où il sera largement question de notre pouvoir d'achat. Des électeurs qui sont pour beaucoup des automobilistes, bien sûr, comme le carburant, le prix des voitures s'envole. Alors justement, que proposent les deux finalistes du second tour à ce sujet? Aurélien Fleureau, là encore, les deux programmes s'opposent.
Oui, puisque pour le président candidat, le virage vers l'électrique doit s'accélérer et arriver à 2 millions de voitures produites en France par an en 2030, tout en s'appuyant sur au moins 3 grandes usines de fabrication de batteries. Mais si l'électrique permet des économies de carburant, cela coûte encore cher à l'achat. Emmanuel Macron propose donc un leasing social, 100€ par mois pour les revenus les plus modestes. Le reste sera pris en charge par l'État. Prise en compte donc de l'impact environnemental, en revanche, dans le programme de Marine Le Pen, coup de frein sur l'électrification du parc automobile. La candidate du RN est contre les zones à faible émission qui vont progressivement entrer en vigueur dans les grandes métropoles pour lutter contre la pollution. Elle défend le moteur thermique en réduisant la TVA sur le carburant à 5,5% et propose une aide de 1 000€ pour la pose d'un boîtier bioéthanol. Enfin, les deux candidats se rejoignent sur la volonté de garder de l'hybride dans le parc automobile et de développer la filière hydrogène.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Vous les avez sûrement déjà vus rouler à toute vitesse dans les rues de votre ville. Peut-être ont-ils même déjà sonné à votre porte. Les livreurs Deliveroo fixés sur leur statut aujourd'hui.
Oui, l'entreprise de livraison de repas est poursuivie pour travail dissimulé. Ses coursiers auraient dû, selon l'accusation, être des salariés. Le parquet a requis 375 000 euros d'amende et 1 an de prison avec sursis pour 2 ex-dirigeants après une audience en mars. Le premier procès pénal en France contre l'ubérisation. Maître Kevin Mention défend plus d'une centaine de plaignants.
Les coursiers demandent 2 choses. C'est soit qu'on respecte leur statut d'indépendant, soit qu'on leur verse toutes les indemnités qui doivent être versées à des salariés. Mais le coursier se connecte sur la plateforme. Deliveroo va vérifier sa vitesse, va vérifier son temps d'acceptation de chaque étape que la plateforme définit elle-même. Et puis, à la fin, si elle n'est pas satisfaite de son travail, elle va lui envoyer des avertissements. Ce coursier est soumis au contrôle et aux sanctions de Deliveroo, donc à un lien de subordination, alors que ce lien de subordination, ça ne devrait se trouver que dans un contrat de travail. Avec toutes les conséquences que l'on devrait en déduire, les congés payés, les cotisations patronales, la retraite complémentaire, la mutuelle obligatoire. Par exemple, en cas d'accident, le maximum parfois proposé est de 50 000 euros pour quelqu'un qui est tétraplégique, alors que avec un statut de salarié, il pourrait avoir plusieurs millions d'euros. On veut que ce soit un message pour Deliveroo, mais également pour toutes les autres plateformes qui font du salariat déguisé.
Maître Kevin Mention, avocat des parties civiles, au micro de Caroline Baudry. Le tribunal correctionnel de Paris doit rendre sa décision à 13h30.
Eux aussi pourraient bien rendre des comptes à la justice, les voleurs du lapin de Colmar, on vous en parlait hier.
Oui, où est donc passé Schmoutzi, qu'on prenait petit bisou en alsacien? C'est aussi le nom du lapin géant des Flandres dérobé vendredi à Colmar. Depuis, aucune nouvelle. Et vous connaissez le dicton, Julien, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Chagrin partagé par les visiteurs du marché de Pâques de Colmar, interrogé par notre correspondante Mélina Fachin.
Pour divertir les enfants dans les allées du marché de Colmar, il reste encore des poules, des poussins. Mais la mascotte de Pâques, c'était Schmoutzi, un lapin géant des Flandres, kidnappé le week-end dernier en pleine nuit, à la surprise générale.
Alors soit c'est parce que, à cause de la crise, ça coûte bien cher, donc un lapin de quoi, 5-6 kilos peut-être
8 kilos et demi.
Bah 8 kilos et demi, ça fait un repas pour combien? Ou alors il est parti poser les œufs un peu partout.
Peut-être c'était pour le libérer.
Ah peut-être, parce mais il n'a pas l'habitude d'être dans la nature, donc ce pauvre lapin...
C'était exactement ce que redoute Marion Schnellin, président de l'association qui s'occupe des animaux du marché de Colmar.
Nous pensons sérieusement qu'il a peut-être 2 semaines de chance de survie si on lui change son régime alimentaire. Honnêtement, on ne s'attendait pas, on va dire, à une dégradation de la société au point d'être assez stupide pour voler l'emblème du lièvre de Pâques pour les enfants à Colmar, pour le bien-être de l'animal qui le ramène à la mairie.
C'est un couple qui a volé Schmoutzi, a priori un homme et une femme. Ils ont été filmés par les caméras de vidéosurveillance de la ville et ils sont toujours en cours d'identification. Colmar, Mélina Fachin, Europe 1.
Il y a Schmoutzi qui a quand même un remplaçant, une remplaçante, on en sait un peu plus, elle s'appelle Ginette, elle est un petit peu moins dodue que Schmoutzi, mais bon, c'est quand même pas pareil, on espère le retrouver.
Un joli prénom en tout cas, Ginette. Merci beaucoup Romain Hockey pour ce journal.
Il est 6h06, on passe au sport. Le journal des sports de Martin Lange et on commence avec du foot. De la Ligue 2, Martin et Toulouse qui pourraient composter son billet pour l'étage supérieur dès ce soir.
Oui, les Toulousains se déplacent à Sochaux. Il leur faut une victoire et des résultats favorables par ailleurs pour être mathématiquement promus. Mais à 4 journées de la fin du championnat, ça semble fait. Toulouse jouera en Ligue 1 la saison prochaine. L'entraîneur du TFC, Philippe Montagnier, reste prudent, mais il est fier de laisser une petite trace dans l'histoire du club.
Il y a très peu de moments où on marque l'histoire d'un club. Et cette remontée, on peut écrire une petite page, une modeste page, mais une page quand même de l'histoire du club. Et ça, ça reste. Moi, je discutais avec un supporter, il me dit, mais quand vous gagnez, mais toute ma semaine est illuminée, on ne se rend pas compte l'impact que ça a. Et ça, alors ça, on est vraiment très fiers de rendre la fierté, du bonheur aux gens. Mais on ne va pas aller plus vite que la musique, d'abord la montée.
En bas du classement, cette 34e journée peut aussi sceller le sort de Nancy, plus que jamais dernier. Demain, place à la Ligue 1, 33e journée avec des chocs dans la course à l'Europe. Marseille-Nantes ou encore Strasbourg-Rennes. Et puis surtout le match de la peur entre deux monuments en péril, Bordeaux et Saint-Etienne.
On passe au basket avec une déception pour Rudy Gobert.
Oui, le pivot des Bleus ne remportera pas un 4e titre de défenseur de l'année en NBA. Le meilleur rebondeur de la Ligue, lauréat du titre en 2018, 2019 et 2021, a été devancé par le meneur de Boston, Marcus Smart, un titre qui vient récompenser la performance collective des Celtics, meilleure défense de toute la NBA. Pour Gobert, il faudra encore attendre un peu pour rejoindre les légendes Dikembe Mutombo et Ben Wallace, les deux seuls joueurs distingués 4 fois. Et comme une déconvenue n'arrive jamais seule, Gobert et son équipe des Utah Jazz ont perdu cette nuit contre Dallas en playoff.
Enfin, un mot de cyclisme pour terminer.
Oui, avec la première victoire professionnelle de Geoffroy Bouchard, le coureur d'AG2R Citroën, déjà meilleur grimpeur sur le Tour d'Espagne et le Tour d'Italie, remporte la première étape du Tour des Alpes. Il en profite pour endosser le maillot de leader.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant. Julien Sanchez, porte-parole du Rassemblement National et maire de Beaucaire, sera avec nous à la veille du débat Macron-Le Pen. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h11 sur Europe 1, votre invité Julien est porte-parole du Rassemblement National et maire de Beaucaire dans le Gard.
Bonjour Julien Sanchez.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin à 5 jours maintenant du deuxième tour de l'élection présidentielle et à la veille du débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On va y revenir, mais avant, cette information de la nuit, l'armée russe a débuté son offensive dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Une attaque qu'a condamnée Marine Le Pen sur Twitter. Nous devons soutenir tous les efforts diplomatiques possibles pour arriver à un cessez-le-feu, écrit-elle. Ça veut dire qu'elle soutient les efforts diplomatiques d'Emmanuel Macron depuis le début de la guerre ?
Ah mais elle l'a dit dès le départ, je crois que moi j'ai été un des premiers à être sur les plateaux de télévision à l'époque du début de cette guerre. Évidemment, Marine Le Pen soutient tous les efforts diplomatiques du président de la République, quel que soit le président de la République, là c'est Emmanuel Macron. Je crois qu'il est important qu'il y ait sur ces sujets-là une unité, parce que tout simplement, il faut que la France parle d'une seule voix. Et je crois que voilà, Marine Le Pen a été très claire et n'a jamais été ambiguë sur ce sujet. Donc voilà, elle a encore une fois réagi de manière très claire.
Est-ce qu'elle condamne par la même occasion vivement l'attitude et la politique de Vladimir Poutine ?
Écoutez, là, on parle effectivement d'une guerre, on parle de civils qui sont tués, on parle de gens qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent avec des proches qui meurent. Donc on ne peut pas évidemment être ambigu sur des sujets comme cela. Pour autant, un président de la République française, et c'est ce qu'aspire à être Marine Le Pen, eh bien, il doit justement œuvrer pour la paix. Et donc, il doit pouvoir parler avec chacun. C'est ce que fait d'ailleurs Emmanuel Macron en parlant aussi avec Vladimir Poutine. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de résultat, mais je crois que c'est ce que fera Marine Le Pen. Elle œuvrera pour la paix et fera en sorte de faire bouger les choses.
Alors, je le disais en introduction, nous sommes à la veille du débat tant attendu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Comment est-ce que votre candidate se prépare à ce rendez-vous crucial ?
Bah écoutez, il vous a pas échappé qu'il y a 5 ans, il lui avait été reproché justement le débat de l'entre-deux-tours. Elle a évidemment conscience de cela. Elle a beaucoup travaillé sur ce débat et elle est prête aujourd'hui à affronter Emmanuel Macron. Il est vrai qu'il y a 5 ans, elle avait attaqué un petit peu bille en tête Monsieur Macron. Cette fois-ci, je pense que ce qui va être important, c'est de mettre en valeur notre projet, montrer en quoi il répond aux aspirations des Français, d'où qu'ils viennent. Et je crois que c'est ce qu'elle s'emploiera à faire lors de ce débat de mercredi soir, qui va être très regardé.
Elle l'aborde comme un match retour après sa prestation ratée d'il y a 5 ans. C'est ça l'état d'esprit ?
Non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, il faut se débarrasser de ce débat d'il y a 5 ans. Et puis, on est vraiment sur un nouveau match. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a exercé le pouvoir pendant 5 ans. On rappelle qu'il avait été avant le ministre de l'économie de François Hollande. Et bien là, il a été celui qui a mis les gilets jaunes dans la rue, celui qui a laissé l'insécurité se développer, laissé l'immigration massive entrer en France.
Donc c'est ça son axe d'attaque, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. C'est comme ça qu'elle va attaquer le président sortant.
Vous me demandiez la différence avec il y a 5 ans. La différence avec il y a 5 ans, c'est que ça n'est plus un homme neuf, entre guillemets. Je crois qu'aujourd'hui, il faut rappeler ce qu'il a fait. Beaucoup de Français ne veulent pas d'Emmanuel Macron 5 ans de plus. Et simplement, on rappelle voilà que la candidate d'opposition qualifiée face à Emmanuel Macron, et elle a vraiment été une opposante farouche pendant ces 5 ans, eh bien, c'est Marine Le Pen. Et aujourd'hui, je dis aux Français, écoutez-la, écoutez ses propositions et ne vous fiez pas aux caricatures.
Julien Sanchez, est-ce que vous pourriez nous faire entrer dans les coulisses de la préparation de ce débat ? Justement, comment est-ce qu'on le prépare ? Est-ce qu'il y a des répétitions, voire un sparring partner éventuellement sur lequel on lance des piques et on prépare ses attaques ?
Écoutez, je peux pas vous faire rentrer dans les coulisses, mais en tout cas, en toute logique, c'est effectivement ce qui se passe. Quand on a un débat de cette importance et avec cet enjeu, évidemment, on le travaille, soit avec ses proches, soit avec ses conseillers.
Et c'est évidemment, ce qu'elle fait ?
Oui, bien sûr, oui. Elle travaille ce débat. En tout cas, ce qu'elle a fait de différent par rapport à il y a 5 ans, c'est qu'on lui a laissé quand même un tout petit peu de temps dans son agenda pour pouvoir y travailler, alors qu'il y a 5 ans, la veille, elle terminait à 2h du matin une réunion et des rendez-vous, et qu'elle était effectivement, elle avait eu un agenda très très compliqué. Donc là, voilà, elle a pris le temps de pouvoir le préparer sereinement, et je pense qu'elle va l'aborder dans de très bonnes conditions.
Julien Sanchez, il ne vous aura pas échappé que entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il y a 9 points d'écart dans la plupart des sondages les plus récents. Est-ce que ça veut dire que ce débat demain soir, c'est le dernier espoir d'inverser la tendance ?
Alors, moi, je suis optimiste pour cette élection. D'abord parce que Emmanuel Macron, encore une fois, a exercé le pouvoir. Il est détesté, il faut dire les choses. Aujourd'hui, en France, Emmanuel Macron est détesté parce que il a mené la France avec une violence sociale, une violence verbale. C'est quelqu'un qui n'a pas écouté les gens. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup vont lui rendre dans les urnes le mépris qu'il a affiché. Et en face, on a une Marine Le Pen qui, justement, a su évoluer, a envie de mettre en place des mesures qui sont importantes, notamment pour la démocratie. Je pense au référendum d'initiative citoyenne, je pense à la proportionnelle, que beaucoup d'électeurs et tous les électeurs en fait ont intérêt à voir appliquer, parce que c'est tout simplement la démocratie remise au centre du pouvoir, ce que nous n'avons pas en France depuis de très nombreuses années, en demandant son avis au peuple.
Justement, Julien Sanchez, vous parlez de démocratie et de référendum. Marine Le Pen veut modifier la Constitution par référendum, ce qui, semble-t-il, est interdit précisément par la Constitution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Non, nous ne pensons pas du tout, encore une fois,
c'est
le référendum...
C'est ce que tous les constitutionnalistes disent depuis deux semaines maintenant, depuis le résultat du premier tour, c'est que la jurisprudence veut que c'est impossible. Aujourd'hui.
Ce que nous disons simplement, et je crois que ça a été mal compris aussi, c'est que Marine Le Pen veut gouverner aussi avec le peuple, tout simplement, et je crois que c'est important. Alors on nous présente ça comme un problème démocratique. Non, ça n'est pas un problème démocratique de demander son avis au peuple. L'article 3 de la Constitution prévoit justement que le peuple puisse par référendum donner son avis sur la politique en France.
Oui, mais il faut d'abord que le Parlement soit d'accord.
Oui, mais est-ce que vous pensez sérieusement que le Parlement va refuser que le peuple puisse donner son avis sur un sujet ? Ce serait grave, là, en l'occurrence pour la démocratie, qu'on dise au peuple « Non, non, vous vous taisez, on ne veut pas savoir ce que vous pensez ». Je crois que aucun parlementaire sérieux ne refusera au peuple de s'exprimer sur un sujet pour lequel la présidente de la République aura voulu que le peuple s'exprime. C'est la démocratie, encore une fois, et il faut changer un peu ces vieilles méthodes où ce sont une minorité de gens qui décident pour les autres sur des sujets très importants comme l'immigration, par exemple la politique d'immigration. Oui. Aujourd'hui on ne nous a pas demandé notre avis et ils rentrent plus de 200 000 personnes légales par an sans compter les illégales. Où est-ce qu'on a vu ça? Je crois que voilà, redemander son avis au peuple sur des sujets comme cela, c'est fondamental.
C'est ce qu'entend faire Marine Le Pen. Merci beaucoup Julien Sanchez, porte-parole du Rassemblement National et maire de Beaucaire, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée à vous.
Merci.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
À 6h19, le rappel de l'actualité, Alban Le Prince.
Nous combattrons, nous défendrons, déclaration de Volodymyr Zelensky, président ukrainien, hier soir. Après avoir annoncé le début de la bataille du Donbass, région de l'Est de l'Ukraine, la guerre entre dans une nouvelle phase qui était redoutée depuis plusieurs semaines. La présidentielle, priorité à la préparation du débat de l'entre-deux-tours pour les deux finalistes qui aura lieu demain soir. Marine Le Pen restera chez elle aujourd'hui dans son bureau. De son côté, Emmanuel Macron a commencé à s'y préparer hier à l'Elysée. Et puis une terrible nouvelle pour Cristiano Ronaldo. Le footballeur a annoncé hier soir la mort de son fils lors de l'accouchement de sa compagne, Georgina Rodriguez. Le couple attendait des jumeaux. Leur petite fille est quant à elle bien née.
On termine avec votre partition, Omblin, et à l'occasion de la sortie prochaine d'un coffret sur Serge Reggiani, vous revenez sur sa rencontre avec Georges Moustaki, qui va lui écrire certains de ses plus beaux textes.
Il existe, Julien, des collaborations qui transcendent la chanson française, et ce duo Serge Reggiani-Georges Moustaki, à la fin des années 60, en fait partie.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie. Une douce habitude.
Tout commence par la chanteuse Barbara.
Alors qu'elle cherche une première partie pour son récital à Bobino, elle va écouter Serge Reggiani au cabaret Le Don Camillo dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Il a 44 ans et lui qui a longtemps brillé au cinéma souhaite se mettre à la chanson. Barbara le prend sous son aile, l'enferme chez elle, le fait travailler, répéter. Elle lui enseigne les bases de la respiration ventrale, des techniques de chant qu'il n'oubliera jamais. On murmure qu'à l'abri des regards, il se serait aimé.
Votre fille a 20 ans, que le temps passe vite, madame, hier encore, elle était si petite.
Barbara souhaite donc présenter son poulain à Georges Moustaki, qui a notamment écrit pour elle La Dame Brune.
Georges Moustaki est alors au creux de la vague et n'écrit pratiquement plus, ni pour lui, ni pour personne. Barbara lui demande de venir la rejoindre à Caen. Il ne sait pas encore qu'il s'apprête à rencontrer l'un de ses acteurs fétiches. Georges Moustaki et Serge Reggiani échangent leurs premiers mots dans le train sur le trajet du retour en direction de Paris.
Car pour lui écrire des chansons, Georges Moustaki a besoin de le connaître.
Oui, et pas seulement à travers les rôles qu'il a tenus au cinéma. Il invite donc Serge Reggiani à séjourner chez lui, rue des Deux Ponts, sur l'île Saint-Louis. L'apprenti chanteur se raconte. Il lui dit ce qu'il aime chez les femmes en particulier. Et aux jolies filles à la silhouette élancée, il préfère celles au visage marqué par les années, par les drames et les ruptures.
La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps, les yeux cernés par les années, par les amours, au jour le jour.
Pour lui écrire la chanson Sarah qu'on entend, Georges Moustaki doit se remémorer une histoire d'amour passé.
Son histoire avec Édith Piaf, de 20 ans son aîné. Georges Moustaki raconte s'être replongé dans ses émotions d'alors, tout en mêlant insidieusement, dit-il, le physique de Barbara, Sarah, mais aussi ma solitude, votre fille à 20 ans, ma liberté. Georges Moustaki offre à Serge Reggiani un répertoire à la hauteur de son talent, qu'il incarne comme une seconde peau. Il rappelait d'ailleurs bien volontiers que Serge Reggiani avait refusé sa chanson Le Métèque.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure.
Ma liberté, par Serge Reggiani, sur des mots et des notes de Georges Moustaki. Le 2 mai prochain, on célébrera le 100e anniversaire de la naissance de l'Italien. Et à cette occasion, un coffret Serge Reggiani à 100 ans sortira le 29 avril, un petit peu plus tôt donc, avec notamment 47 titres.
Merci beaucoup, Ombline. Vous restez avec nous dans un instant. Votre matinale se poursuit avec Pierre Devineau.